Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous quotidien de Radio Foot International sur RFI, bien sûr, et comme chaque jour, pour vous parler de football et pour vous parler à travers la radio, mais aussi à travers le Facebook Live, puisque nous sommes filmés comme hier, en espérant que vous nous recevez mieux qu'hier, mais on vous l'a expliqué, la panne était générale et absolument pas due à notre équipe vidéo ni à RFI. Aujourd'hui, nous évoquerons une finale inattendue en Copa América. Le Pérou retrouvera le Brésil. La Blanquiroja s'est débarrassée des Chiliens, double tenant du titre. La Seleção devra se méfier d'une équipe menée par un vrai guerrier, Paulo Guerreiro, récemment battu 5-0 quand même, cette équipe du Pérou, par le Brésil. En Coupe du Monde, en France, la colonne orange rejoint les Stars and Stripes Pays-Bas, États-Unis en finale. Les filles championnes d'Europe se sont qualifiées pour défier les championnes du monde américaines. Les Néerlandaises devront hausser leur jeu. Des transferts à retenir. Gigi Buffon retourne à Turin. Pourquoi la Juventus lui offre-t-elle encore un contrat? Et puis Adrien Rabiot à la même Juve, le bel épilogue là d'une triste histoire, car il jouera la saison prochaine avec Cristiano Ronaldo. Et puis à l'Atlético, un club qui casse sa tirelire pour un très jeune joueur du Benfica. Le remplaçant de Griezmann, João Félix, de 19 ans, coûte 127 millions d'euros. Enfin, quand la star se blesse, une équipe perd-elle tous ses moyens? Exemple de la Guinée à la CAN, qualifiée contre l'Algérie en 8e de finale, mais qui devra continuer sans Naby Keïta, définitivement forfait pour la compétition. Pour évoquer les sujets du jour, nous retrouvons, et vous les voyez autant que vous les entendez maintenant, vous savez à quoi ils ressemblent, Nabil Djellit. Bonjour Nabil.
Alors c'est Naïm Moniol, mais bonjour quand même.
Excusez-moi. Ça doit être pas grave. Je pense qu'on travaille trop. Naïm Moniol, oui, Nabil Djellit, ils l'ont vu plusieurs fois ici le soir. À vos côtés, Chérif Guémour de SoFoot, bonjour Chérif.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Et puis Gilles Verdez, bonjour Gilles.
Bonjour.
Bon, je ne me suis pas trompée là. Excusez-moi Naïm, mais vous aurez droit à double temps de parole. Radio Foot, c'est parti.
Cette récupération, Christian Cueva, centre pour essayer de trouver la solution. Oh, Carrillo ! Edison Flores ! 20e minute, le Pérou qui vient valider son entame incroyable dans cette demi-finale face au Chili pour venir ouvrir le score. Edison Flores ! Bianchi-Rora, 3-0, dimanche, c'est le Pérou qui ira défier le Brésil en finale de la Copa América 2019.
Et oui, c'est le Pérou, la Blanquiroja, Los Incas sont en finale de la Copa América, de quoi rendre euphoriques les Péruviens dans les rues de Lima hier soir, mais aussi ailleurs dans les autres villes de ce pays andin. Et de quoi rendre heureux aussi leur colonne de supporters fidèles qui les suit et qu'on avait vu si nombreux envahir, vous vous en souvenez sans doute, la petite ville d'Ekaterinbourg. C'était en Russie lors du France-Pérou en Coupe du Monde il y a à peu près un an. Alors cette fois, 44 ans plus tard, le Pérou se retrouve en finale de la Copa América au Brésil et il retrouvera donc le pays hôte au stade du Maracana de Rio de Janeiro et ça sera dimanche. D'une manière inattendue en tout cas, ces Péruviens ont sorti les doubles tenants du titre. Et assez clairement, cliniquement, dirait notre ami Naïm Moniol, 3-0. Alors que quand même, on peut noter qu'en plus, la soirée s'est assez mal terminée, autant qu'elle s'était passée pour les Chiliens, oui, avec cette panenka manquée de Vargas. Alors c'est vrai qu'on dit que quand on la réussit, c'est très beau, et quand on la rate, c'est ridicule.
Bon. Ouais.
Mais ils les ont quoi? Les Péruviens ont étouffé, dominé, écrasé les Chiliens?
Non, pas ni étouffé, ni dominé. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait eu un jeu égal, parce que
chilien n'a pas démérité.
C'était
un très beau match,
très
d'abord,
beau match.
Il faut le dire.
Ouais, ouais.
Mais alors, le Pérou, je vous l'ai dit tout à l'heure, clinique. C'est-à-dire qu'en fait, le Chili, sur son match, il a 20 minutes d'absence. 18 minutes. En 18 minutes, ils mettent deux buts. Ouais. Ils les ont tués. Coup derrière la tête. Il n'y a absolument rien à dire. Ils ont profité des erreurs de la défense, des erreurs du gardien. Grosse solidité derrière. Le gardien a peut-être fait le meilleur match que j'ai vu de la compétition. Absolument monstrueux, Gallès.
Je te rejoins.
Et voilà.
Oui,
le Pérou.
Après la catastrophe contre le Brésil.
Et franchement, ils ont été... Évidemment, ils sont pas favoris de la finale parce que le Brésil est une grosse équipe, parce qu'ils sont à domicile, parce que vous venez de le dire, il y a eu un match en poule qui a largement tourné à l'avantage du Brésil.
On va se projeter sur la finale après.
Mais alors, ce Pérou-là, il peut poser des problèmes à n'importe qui. On a un peu retrouvé le Pérou qui a été très bon dans des éliminatoires du Mondial 2018 et qui avait causé des soucis à l'équipe de France lors du Mondial.
Voilà.
D'ailleurs, il manquait, à part trois joueurs, c'était exactement la même équipe. Moi, j'ai trouvé que ce Pérou-là avait très bien joué. Je le répète, le Chili a pas démérité, mais 20 minutes d'absence, toutes deux pastilles terminées.
Sheriff Guémour, on se souvient, la France avait eu du mal et n'avait gagné que
pour moi,
par
c'était
1
le
à 0. Hein.
Pour moi, le gros test de l'équipe de France en poule l'année dernière, au premier tour de Coupe du Monde, c'était le Pérou. C'est l'équipe que je redoutais. On savait qu'elle était très dure à jouer derrière. Ça a été le cas. On leur a mis qu'un seul but et qu'ils pouvaient marquer à n'importe quel moment. Ils n'ont pas pu le faire parce qu'il y a Lloris qui sort, dans mon souvenir, une ou deux actions hyper chaudes. Il y a peut-être une barre. Enfin, peu importe. C'est l'équipe que je voyais très forte. Et quand elle arrivait sur le tournoi, j'avais du mal à l'évaluer. Quand ils prennent le 5-0, mais là ils sont balayés. Je me dis non, c'est pas possible. En
plus,
le gardien est en dessous de tout. J'avais du mal à l'évaluer. Et puis finalement, on a retrouvé un peu les qualités, comme disait Naïm, qu'on avait vues en éliminatoire de 2018. Et puis même, ils sortent de très peu. Et puis surtout, on va quand même préciser, le gardien fait des arrêts absolument extraordinaires. Il n'y a pas que la Panenka. Hein.
Extraordinaire avec le Pérou sur cette compétition. Ils ont une histoire absolument folle. Ils font une phase de poule très moyenne. Parce
qu'ils finissent meilleur troisième. On a oublié de
le
lire.
Au-delà de la tôle contre le Brésil, il y a un 0-0 contre le Venezuela qui est franchement pas beau. Ils sont sauvés deux fois par la VAR face à l'Uruguay. Ils perdent leur meilleur joueur, Jefferson Farfán, qui est un joueur absolument magnifique qui est blessé jusqu'à la fin de la compétition. Ils ont tout pour échouer. Et finalement, ils sont en train de tout réussir. Complètement fou, complètement dingue. Alors, va parler de Guerrero. Quand on va parler de Guerrero, on parlera aussi de son entente avec Carrillo, avec Cueva. C'est le secteur offensif du Pérou au Mondial. Hein. On n'invente rien.
Pérou.
Je veux bien tout ce que vous voulez, mais c'est quand même l'absurdité du football. Vous êtes balayé en poule et par des concours de circonstances incroyables, vous vous retrouvez là. Mais je vous trouve très laudateur pour ce Pérou-là qui a bénéficié d'errements défensifs chiliens invraisemblables. Tout comme le Brésil, sans doute, avait bénéficié d'errements péruviens. Mais quand vous êtes balayé en poule, normalement, dans une compétition, je sais que ce que je vais dire, Annie, va vous faire bondir, dans une compétition sérieuse, vous ne pouvez pas vous relever de
non,
ça.
Non, mais
c'est parce que la Copa América a toujours été difficile à lire.
Le Portugal a fini troisième de sa poule à 2016 et est champion d'Europe. Hein.
Non, mais il n'a pas pris 5-0 en poule.
Non, mais il n'a pas gagné 5... non plus, il n'a même pas battu la Hongrie. On n'est pas en train de critiquer le format de la compétition, on parle du niveau de l'équipe. Le format de la compétition n'a rien à voir.
Il y a eu ça en 1954 avec Hongrie-RFA en Coupe du Monde. Quand vous êtes balayé, que vous gagnez depuis, c'est impossible de se relever de ça. Donc le fait que le Pérou se relève de ça illustre le fait que cette Copa América est toujours difficile à lire. Elle dépend de particularismes locaux, elle dépend de la motivation des uns et des autres, de l'amour du maillot que le Pérou a, certes, mais sur le plan du football, c'est invraisemblable que le Pérou soit en finale.
Alors, on n'est pas en train de critiquer. Moi, je suis pas en train de juger le format de la compétition. On peut le juger ridicule, comme d'inviter le Japon et le Qatar.
J'ai dit que c'est
quand tu parles des meilleurs troisièmes, c'est le format de la compétition que t'attaques. Maintenant, je vais te dire un truc, Gilles. Le Pérou sur la scène continentale, c'est troisième en 2011, troisième en 2015,
et éliminé
au tir au but en 2016. C'est quand même pas une équipe. C'est pas la Bolivie qui se prend des tannées à chaque fois et qui sort en poule. C'est une équipe qui sur la scène continentale a quand même des vraies références sur les dernières années.
Alors, parlons de Paulo Guerrero parce que c'est quand même le personnage intéressant. On se souvient, à la Coupe du Monde, il n'avait pas pu participer. Il y avait eu une bizarre affaire de dopage qui, en fait, au bout d'un recours auprès du tribunal arbitral du sport, avait fait que finalement le joueur avait été blanchi. Mm-hmm. Il avait disputé cette Coupe du Monde et c'est à la fois le leader et le vieux grognard, on va dire.
C'est le prédateur. Hein.
Mais Farfán aussi, Guerrero, hein, c'est 34. Hein,
Guerrero, c'est le leader emblématique de l'équipe. D'abord, c'est un super joueur. Ça a pendant été très longtemps le succès successeur désigné de Pizarro. Il avait fini sa formation en Allemagne, il jouait au Bayern, au Hambourg, il était bon en plus. Puis c'est un type qui, dans la vie locale, est un peu la star, voilà, et les gonzesses et les machins. Donc voilà, c'est le leader de l'équipe, celui qui a longtemps brillé, c'est le meilleur buteur en activité de la Copa América. Il est évidemment moins décisif que sur les dernières éditions, mais il a quand même marqué hier. Puis voilà, c'est le leader de l'équipe. C'est son entente, on en parlait avec Carrillo, avec Cueva, c'est vraiment un personnage central dans l'équipe du Pérou, mais dans le football péruvien en général.
Oui,
il
personnage est leader.
Il est redevenu sud-américain, il joue au Flamengo, il joue au Brésil.
Alors, toi, Alegre.
Quand même, on ne peut pas ignorer, vous l'avez évoqué, cette ombre portée de ce contrôle antidopage, cette suspension de multiples recours que lui et ses conseils ont très habilement exploité. Effectivement, ils ont fini par entendre raison. Mais il y a quand même autour de lui, il n'y a pas de fumée sans feu. Ça sent le soufre. C'est un joueur sulfureux, Naïm le disait un peu. C'est aussi un joueur sulfureux en dehors du terrain.
Mais c'est un garçon qui a énormément de qualité. Et il fait partie de ces joueurs dont malheureusement, la médiatisation, la notoriété et la vie extra-footballistique a largement empiété sur ses qualités de footballeur, même déjà en Allemagne, parce que il a quand même, voilà, aujourd'hui il a 35 ans. Il a 35 ans, c'est quand même un garçon qui a d'énormes qualités.
Ouais. Alors, projetons-nous quelques instants. C'est autour de la finale, puisque la Selecion joue à domicile, qu'elle ne gagne pas de Copa América depuis 2007 et que je pense qu'elle serait sûrement très heureuse d'en gagner une, mais surtout, elle attend certainement ses Péruviens de pied ferme. Écoutons le sélectionneur argentin des Péruviens, Ricardo Gareca. Il a bien conscience que l'écueil sera difficile à contourner.
Quand on en arrive là, même en sachant combien il va être difficile d'affronter le Brésil, étant donné l'équipe, étant donné les qualités individuelles et leur coach, on sait que c'est incontestablement une des meilleures équipes du monde. Mais ce sera une finale et les finales, c'est quelque chose à part. On espère faire un bon match parce qu'on a dans l'idée, et ce, malgré les spéculations, que quand on joue une finale, il n'y a pas d'autre option que de la gagner. Et on aura cette attitude mentale. Bien sûr qu'on respecte notre adversaire, c'est une équipe avec beaucoup de qualité, une équipe qui a obtenu un gros résultat contre nous. Mais j'ai vraiment confiance dans cette équipe, une totale confiance.
Chérif, est-ce qu'on peut imaginer que les Brésiliens se font piéger chez eux par les Péruviens, par ces Péruviens ?
Non, a priori, ils partent favoris, il y a une vraie dynamique, il y a eu des petits ajustements au niveau de l'équipe. Il y a des joueurs qui me bluffent encore comme Dani Alves, enfin c'est étonnant. J'ai Gabriel Jesus qui se met à marquer. On l'attendait depuis un bout de temps. A priori, son favori, on voit pas trop. Et puis voilà. Après, c'est tout le côté irrationnel. Les Péruviens, ils sont sur leur nuage. Déjà, ils sont passés au tir au but en quart. Donc bon, avantage Brésil. Voilà.
Gilles, pareil.
Oui, normalement, le Brésil est largement favori sur le plan individuel, collectif, évidemment l'environnement. Mais c'est vrai qu'il y a un côté irrationnel dans cette compétition. Donc, pourquoi pas, mentalement, est-ce que les Brésiliens vont pas avoir cette pression qui parfois les rejoint, les gagne et les submerge ?
La pression, ils l'ont plutôt bien gérée face à l'Argentine quand même.
Oui, mais parfois, ils sont rattrapés par les enjeux.
Globalement, le Brésil commet très peu d'erreurs derrière, ce qui était un petit peu son point faible sur les dernières éditions et de la Copa et de la Coupe du Monde. Cette année, il y en a quand même beaucoup moins.
Naïm, ce qui est amusant, ce qu'on peut noter, c'est que malgré tout, dans cette Copa América, il y aura un Argentine-Chili. Parce que ça fait 2 ans qu'on l'avait, cette rencontre. Alors, jusqu'à présent, ça se terminait au tir au but et c'était en finale. Et là, ça sera pour la petite finale, on va dire, pour la troisième place. Mais c'est assez amusant à souligner.
Pour le clin d'œil. Non, puis c'est quand même pour un garçon comme Messi, va quand même vouloir à cœur de terminer troisième, même si c'est pas une compétition gagnée. Le Chili reste quand même sur 2 victoires. Ils vont vouloir sortir de la meilleure des manières parce que les deux, en plus, ont vraiment des raisons d'être déçus de sortir en demi-finale. Les erreurs d'arbitrage pour l'Argentine, le jeu, les absences défensives pour le Chili. Donc évidemment, c'est des équipes qui se voient y aller au bout, très certainement.
Évidemment. L'Argentine, on en a parlé hier de la grande déception. On avait aussi écouté Lionel Messi se désoler, notamment du rôle de l'arbitre et de la VAR. Hier après-midi, l'AFA, c'est-à-dire l'Association de football argentin, a envoyé une lettre de réclamation de 6 pages où elle dénonce auprès de la Comebol qui organise la compétition, qui est une sous-FIFA régionale, elle dénonce l'arbitrage partiel de l'équatorien Rodi Zambrano et aussi la démonstration politique du président Jair Bolsonaro dans le stade contre toute éthique sportive. Gilles.
Franchement, j'ai été extrêmement choqué. Et même si le président a été démocratiquement élu, ça m'a rappelé de très mauvais souvenirs. Pourquoi? Y compris l'Argentine.
Sud-américain.
Oui, l'Argentine 1978.
Oui.
J'ai trouvé que la compétition servait de prétexte à une démonstration de force populiste du pouvoir. Bah, le président qui vient, on le voit,
il a fait
lever
le tour,
les bras, faire le tour d'honneur,
il a fait
se
le
faire
tour
saluer
dans
par
le
tous
stade.
Les supporters.
C'est absolument interdit par la FIFA, toute démonstration politique.
Il s'est servi de l'arène sportive pour justifier son pouvoir pour triompher une nouvelle fois. J'ai trouvé ça malsain. Je trouve que l'Argentine, non seulement sur le plan du football, mais de l'éthique et de la morale, a totalement raison de protester. Ça ne donnera sans doute rien, mais il pouvait pas laisser passer ça.
En tout cas, ce qui est amusant, c'est ce terme qui a été inventé du côté de Buenos Aires, ce barbaridad, qui est, on dirait...
C'est un joli terme.
Voilà, barbaridad, c'est en fait, c'est grotesque. Et là, c'est barbaridad. Évidemment, on s'amuse avec le mot var. En tout cas, est-ce qu'il y aura des sanctions? Est-ce qu'on peut imaginer ça?
Ça non, paraît
ça
difficile.
Va finir à la poubelle.
Voilà, malheureusement. Mais ça aura été noté, et dans Radio Foot, on l'a noté aussi.
6 pages.
La Coupe du Monde féminine de la FIFA, France 2019.
Et la frappe de Grenen qui fait mouche à la 99e minute. Pour l'instant, les championnes d'Europe mènent 1-0 et sont en finale.
1-0 pour les Pays-Bas.
Ouais, bien joué, hein. Très bien joué par les Néerlandaises.
En het einde is daar afgelopen. Het Nederlands elftal gaat naar de finale van het wereldkampioenschap voetbal.
Avant d'évoquer le marché des transferts qui commence à s'agiter, notamment en Europe, on s'arrête donc sur cette Coupe du Monde et des championnes du monde qui rencontreront des championnes d'Europe. Une certaine logique a été respectée, un peu comme à la CAN, on disait qu'il y avait une logique. Et bien là aussi, pour en arriver à la finale de la Coupe du Monde 2019 qui se disputera dimanche soir à Lyon, les filles au maillot orange ont fini par se qualifier face aux Suédoises. Mais que ce fut dur, que ce fut long, surtout le but a surgi durant les prolongations. Le seul but de la partie, des pieds d'une jeune fille. C'est une jeune fille d'ailleurs qui a une très belle histoire, cette Hollandaise, Sheriff Gemoer, Jackie Groenen.
Elle porte le numéro 14, hein, l'honneur de son idole, Johan Cruyff, parce que ses parents lui en avaient parlé. Elle vient du judo, elle vient pas du foot. Et elle s'y est mise, il me semble, à 16 ans.
17 ans, ouais, voilà, 16-17 ans. Elle en avait assez de faire du sport en salle.
Ouais.
Et elle s'est dit, je veux aller dehors. Et alors, même dans ces pays, sous ces latitudes froides.
C'est toute l'histoire du football néerlandais féminin de ces 10 dernières années. C'est une super aventure.
Est-ce que vous aviez...
Miedemal vient du tennis, l'attaquante néerlandaise.
Ouais. Ouais, c'est...
Non, mais ça prouve, voilà, c'est une bonne leçon d'humilité aussi pour les footballeuses françaises qui s'autoproclament, qui annoncent des belles choses, qui revendiquent une place. Les Hollandaises, elles sont arrivées sur la pointe des pieds. Elles ont gagné 2000
c'est
euros 2017.
C'est leur troisième Coupe du Monde.
Elles ont
depuis
gagné,
2011.
Ouais, ouais, elles ont fini par avoir un titre international, l'Euro 2017. Et là, elles sont en finale. Alors qu'elles sont arrivées sur la pointe des
vous
pieds.
Vous les attendiez en finale?
Pas du tout. Non. Pas du tout. Par contre, il y avait la dynamique. C'est intéressant, cette Coupe du Monde, parce que bon, il y a les nations en déclin, il me semble, comme l'Allemagne et le Japon.
Oh non, les l'Allemagne quand même. Shérif, pas l'Allemagne.
Ils sortent en quart.
C'est une contre-performance qu'elle soit sortie par les Suédois. Je veux bien dire que c'est football en déclin. Non, quand même pas.
Elles iront pas aux Jeux Olympiques. C'est important quand même. C'est les quarts de finale. Tu te fais sortir par la Suède. Tu te fais pas sortir par les États-Unis ou par une grosse
équipe. La Suède.
Ouais. Non. Alors,
historiquement, la Suède, c'est une belle équipe de foot féminin.
C'est alors, on va parler de, comment ça s'appelle, de fin de cycle, un autre cycle qui redémarre. Ah, mais pour moi, bref. Et il y a les nations qui montent, comme les Pays-Bas et l'Angleterre. Et la valeur stable, c'est les États-Unis. Est-ce qu'il y a un début de déclin? Moi, il me semble que oui. Mais elles arrivent toujours à gagner un peu façon Juventus ou Real en Ligue des Champions.
Les Américaines.
Ouais, les Américaines. C'est un peu la valeur stable. Et puis, donc voilà, c'est...
C'est
nation montante, les Pays-Bas. Nation montante. Jusqu'où? Je sais pas.
Gilles.
Ce qui m'a intéressé, c'est, je trouve, leur réussite tactique sur ce match. Un match très fermé. Beaucoup moins passionnant que la demi-finale précédente.
Plus crispé.
On est un peu allé, un peu allé quand même au bout de l'ennui parce que les deux équipes se sont pas livrées. Mais la force des Suédoises, c'est le poids offensif dans l'axe. Et les Pays-Bas, grâce à leur charnière, ont parfaitement neutralisé ça. Les Suédoises étaient émoussées, n'avaient plus de recours. Et je trouve que les Pays-Bas, bon, ils sont vraiment pas favoris face aux États-Unis. En plus, c'est un jour de moins de repos, une prolongation en plus. Mais je trouve qu'il y a il y a un enthousiasme collectif, Chérif le disait, et je trouve une justesse tactique. C'est-à-dire qu'ils se sont adaptés à chaque adversaire. Elles sont passées. Elles ont su modifier un peu leur schéma. Et franchement, il y a une patte de l'entraîneur que je trouve vraiment intéressante.
Et elles jouent comme elles savent jouer. Elles se prennent pas pour des autres.
Justement, Naïm,
connaissent leurs limites.
On le comprend ou on l'imagine. Les Américaines sont évidemment les ogresses de la compétition et elles sont favorites. Malgré tout, on a vu quand même les Espagnoles, puis les Françaises, puis les Anglaises ouvrir des petites brèches comme ça. Je dis pas qu'elles se sont mises à douter, mais il y a quand même eu quelque chose, quelques portes ouvertes. C'est impossible d'imaginer que les joueuses des Pays-Bas puissent aussi les embêter, que ça soit pas une finale à sens unique?
Alors oui, on peut tout à fait penser que les Pays-Bas vont les embêter. On peut même imaginer que sur un match, une finale, tout est possible et voir les Pays-Bas créer l'exploit. Alors évidemment, elles sont pas favorites, mais je trouve qu'on minimise un peu le secteur offensif de cette équipe. C'est quand même des joueuses qui jouent dans les meilleurs clubs. Martens, c'est Barcelone, Miedema, c'est en Angleterre, et Van de Sanden, c'est à Lyon. Elles ont les meilleures attaquantes, peut-être aujourd'hui européennes, les Hollandaises. Donc elles ont évidemment les armes pour bousculer les États-Unis, à ceci près de l'expérience et du banc de touche. Parce que les Américaines, on l'a vu, quand elles mettent Carly Lloyd et Rapinoe sur le banc, elles arrivent encore à battre l'Angleterre.
On va les écouter d'ailleurs, ces joueuses, et notamment la défenseuse, Marelle Van Dogen. Elle est au micro de Laura Martel, qui est à Lyon, et elle a donc interrogé l'une de ses championnes d'Europe sur la finale.
Je ressens tant de choses à la fois, c'est dur à décrire, je n'ai pas les mots. On est en finale de Coupe du Monde. C'était mon rêve quand j'étais petite fille, alors de le voir devenu réalité, c'est indescriptible. Je suis super heureuse. Les Américaines seront sans aucun doute l'adversaire le plus redoutable que nous ayons à rencontrer. Elles ont marqué l'histoire du mondial. Le plus important sera de ne pas laisser d'espace pour qu'elles ne passent pas entre les lignes du milieu et de la défense, parce qu'elles savent très bien le faire. Elles sont physiques, elles sont bonnes au sol et dans les airs, alors on doit être préparé à tout. Mais on a montré qu'on est endurante et qu'on peut même jouer 120 minutes, parce que même pendant les prolongations, ça se voyait qu'on était toujours en forme. Et c'est bien de savoir qu'on est capable de ça aussi.
Gilles, alors évidemment, elles mettront tout en œuvre pour réussir à contrer les Américaines. Possible ?
Bon, ça va être difficile parce que, contrairement à ce que disait Naïm, moi je trouve que le poids offensif est trop léger. Avec une Martens sans forme.
C'est la meilleure attaque, les États-Unis.
Les États-Unis en face pour une fois.
Quand vous avez ça dépend de la poule, vous savez très bien.
Ça dépend de la poule. Les buts, il faut les mettre
Quand vous avez des 13-0 en poule.
Mais contre la Thaïlande. Ce que je te dis, tu me parles de les États-Unis. La Hollande, elle a un beau secteur offensif avec des matchs qui étaient plus serrés quand même.
Non, moi je pense qu'avec Martens, c'était jouable. Sans elle, je vois pas qui, côté Pays-Bas, mais peut-être que je me trompe, je ne vois pas qui va marquer. Franchement, je ne vois pas les Pays-Bas capables d'inquiéter. Une minute, un but, une occasion, la défense américaine.
J'ai essayé d'arbitrer votre débat passionné. Le score de 2-1, c'est jamais un score neutre. C'est comme ça que la grande équipe de France a gagné l'Euro de 2000. C'était l'équipe la plus forte, mais ils ont toujours gagné. L'équipe de France a toujours gagné 2-1. C'est-à-dire qu'il y avait une petite marge, enfin une marge assez confortable, mais non, c'était pas non plus des 3-0. Ce que je vois avec l'équipe des États-Unis, c'est à peu près la même chose. En apparence, c'est des scores assez réduits, 2-1. Mais dans le jeu, les Américaines marquent à peu près quand elles le veulent, et après, elles savent gérer derrière.
Donc, en gros, les Pays-Bas, elles ont une attaque qui est derrière les États-Unis la meilleure. Elles ont des joueuses qui marquent des buts. Elles sont championnes d'Europe. Elles ont éliminé le Japon. Elles ont tapé l'Italie. Mais en gros, elles vont rien faire contre les États-Unis. Elles sont là par hasard.
Non, on a pas dit qu'elles feraient rien.
Sous-estimez pas les Pays-Bas.
Évidemment,
elles ne sont pas favorites. Je veux bien. Ne sous-estimez pas les Pays-Bas.
J'ai commencé par quoi? J'ai commencé par 2-1. J'ai pas dit 3-0. J'ai dit 2-1. C'est bien 2-1 si elles perdent 2-1.
On peut se tromper, mais tout laisse à penser quand même à la lecture, à la vision globale du tableau, qu'il y avait une partie du tableau qui était beaucoup plus forte que l'autre. On a quand même l'impression que la finale de la Coupe du Monde, c'était la demi-finale entre les États-Unis et l'Angleterre. Mais encore une fois, on peut se tromper. Il y avait une partie du tableau qui semblait beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus forte.
La finale, en tout cas, sera à suivre sur RFI dimanche soir à 21h avec Eric Chorin, avec Martin Guez et avec Laura Martel. On continue vers les transferts.
dans 15 minutes.
La finale, ça sera à suivre à partir de 17h, me corrige Gilles. Il y a tellement, de matchs en ce moment que c'est vrai qu'on s'y perd un peu entre les terrains, les villes et les compétitions. Un petit tour, eh bien, à Paris et puis revient Gigi Buffon, l'emblématique gardien italien. Retour à la Juventus de Turin, son club, le club pour lequel il a déjà disputé 656 matchs sous le maillot Bianconeri. Buffon arrive libre, son contrat avoisinerait son salaire, disons, les 2 millions d'euros par saison. Alors, il y en aurait qu'une, il y en a deux, on ne sait pas trop bien, mais peu importe. Son but serait, en fait, dit-on, enfin plus ou moins officiellement, de battre un record, celui du nombre de matchs disputés dans le calcio. Pour l'instant, c'est Paolo Maldini qui détient ce record avec 902 matchs. Il en manque 8 à Buffon pour réussir à égaler ce record. Je sais pas qui posait la question en premier. Allez, à vous, Chérif Guémour. Le record, est-ce que c'est une excuse pour offrir une belle sortie à un gardien qui s'était un peu perdu au PSG?
La Juve, ils font pas de sentiments. S'ils l'ont pris, c'est pour des motifs sportifs et il faudra qu'il soit à la hauteur. Hein. Il y a déjà un gardien qui est en place.
Oui, il sera numéro 2 de toute façon.
Voilà, c'est ça.
Non.
Pourquoi
vous
pas?
Vous pensez
non,
pas? Naïm.
Non, je crois pas.
Non, mais alors pourquoi faire signer Gigi Buffon qu'on a laissé partir un an avant?
Pourquoi refaire venir Bonucci à qui on a mis un coup de pied dans les fesses pour qu'il aille à Milan? C'est la
Juve. Ah bah, on l'a vu cette année quand même sur le terrain. Gigi Buffon, c'est quand même 25 matchs avec le PSG, 25 buts encaissés et certains dont on se souviendra longtemps.
C'est surtout une carrière extraordinaire avec la Juve. C'est un monument du football italien, des meilleurs gardiens de l'histoire. Vous le récupérez pour 0€ avec toute son expérience, plus potentiellement l'idée de le recycler dans l'organigramme comme ils ont fait le Pavel Nedved.
D'accord, sûrement. Alors avec une deuxième idée, c'est de le garder. Dans la direction.
La Juve est très intelligente. Elle fait pas sentiment, mais elle est très intelligente. Récupérer Buffon, c'est évidemment une bonne opération.
Parce c'est pas vraiment pour qui joue.
Non, mais de toute façon, ils auraient jamais dû le laisser partir.
Il faut effectivement corriger l'erreur. C'est une double erreur. L'erreur du club d'avoir laissé partir ce symbole. Et puis l'erreur de Buffon d'avoir tenté qu'il pouvait encore jouer au plus haut niveau à Paris. Tous les deux se sont trompés et décident de se retrouver. Alors ils font pas de sentiments, mais quand même, il y a un aspect mental dans son retour. Là, la Juve, change quand même d'air, change de joueur, change d'entraîneur. Il y a un renouveau. Et ils avaient besoin d'une certaine continuité de l'état d'esprit. Voilà. Mmh. Et pour cette mentalité de la Juve, Buffon est le meilleur. Donc ils le font revenir pour qu'il incarne ça et qu'il ait un rôle quand même de pierre angulaire dans un vestiaire qui peut-être être un peu déboussolé par ces recrues et cette nouvelle ère qui s'ouvre.
Oui, effectivement, parce que l'année dernière, donc Cristiano Ronaldo était arrivé et maintenant on a d'autres recrues et notamment un homme arrivé dans l'effectif très élégant dans un costume sûrement italien déjà.
Bien coiffé.
Adrien Rabiot avec sa longue tignasse, l'autre Parisien en exil italien. D'ailleurs, il l'a carrément dit, hein, Buffon, il serait quand même pour quelque chose. Mais le milieu de terrain de 24 ans. Si pour lui il s'agit d'un bel épilogue, c'est vrai que l'histoire avait été un peu triste, son histoire avec le Paris Saint-Germain, vous vous en souvenez, mis sur le banc et puis sa maman, agent, que finalement le PSG avait aussi mis au banc du club pour avoir refusé de prolonger. Écoutons-le, Adrien Rabiot et ses premières paroles de Bianconeri.
C'est un très grand club, très prestigieux, qui a pas mal d'expérience au niveau européen. Même si ces dernières années, ça a été un peu plus compliqué. Mais bah, ça reste un club qui arrive très souvent dans le dernier carré, qui a joué des finales il y a pas très longtemps. Donc un club forcément dans mon esprit au-dessus du PSG et forcément qui m'inspire beaucoup.
C'est dur, hein, l'oral du bac, hein, quand même. Hein.
Il y a un petit tacle en passant au PSG, Gilles.
Oui, tacle mesquin. Bon, j'ai jamais
mesquin.
Été fan de Rabiot.
L'histoire a été mesquine.
Alors, je n'ai jamais été fan de Rabiot du tout. Moi, quand vous crachez sur l'équipe de France, vous crachez sur le football, vous crachez sur la vie. Donc voilà. Pour moi, il n'y a pas de rédemption après ça. Quand on refuse d'être réserviste des Bleus.
Vous avez vu qu'il a fait déjà un appel du pied en disant qu'il était.
Il aimerait bien, mais ça fait beaucoup quoi à chaque fois. Donc maintenant, il nous sert un couplet. J'aime la Juve et puis il quittera la Juve pour un autre club qui lui proposera une prime de 10 millions d'euros à la signature. Voilà, c'est un très bon joueur sans doute, mais je trouve que c'est beaucoup trop négatif dans le comportement pour mériter d'être porté au firmament des grands joueurs. Un grand joueur est aussi un grand homme, et c'est pas un grand homme.
Gilles Verdez est extrêmement dur, comme à l'accoutumée. moi, je, alors, pour être honnête, je suis pas un grand fan non plus de Rabiot. Maintenant, il faut quand même être logique et avoir de l'intégrité intellectuelle et professionnelle. C'est un super joueur de foot.
Ah oui, c'est sûr.
Il est sorti du circuit sur les 6 derniers mois pour tout un tas de raisons. Il a ses torts, il a peut-être parfois raison.
Il a sûrement manqué.
Ben, non, mais PSG. Il a surtout raté 6 mois de sa carrière, parce que c'est un joueur qui, en forme, dans de bonnes dispositions, est un des meilleurs du monde à son poste. Il est bourré de talent, Adrien Rabiot.
Il sera titulaire?
Je pense qu'il peut s'imposer. Est-ce qu'il le sera? Il n'a pas une place d'acquise, mais il peut s'imposer parce qu'il a quand même un profil. D'abord, c'est un gaucher. Au milieu de terrain, il n'y en a pas des masses à la Juve. Deuxièmement, il a des qualités suffisamment techniques pour pouvoir évoluer dans le jeu de Sarri, mais il a aussi un volume de jeu qui lui permet de récupérer des ballons. C'est-à-dire qu'il a quand même, à lui tout seul, ce que potentiellement d'autres n'ont pas, ou alors à 2 ou à 3. Donc il part avec un léger avantage. Moi, je pense qu'il faut surtout que dans sa tête, il revienne dans le foot. C'est pas une histoire de physique, il est jeune, ils vont lui faire une prépa, il a du talent. C'est dans sa tête. Si dans sa tête, il revient dans le circuit, ouais, ça va redevenir un joueur majeur.
Le mental, on le sait, hein, c'est toujours important. Il retrouve en plus Blaise Matuidi sur cette pelouse.
Hein. Bah, il va peut-être pas le retrouver, justement, parce qu'il va peut-être lui piquer sa place. Mm. Tu parlais d'un gaucher relayeur. Donc, non, sur Rabiot, pour moi, ça reste un mystère. Incontestablement, j'ai vu des matchs de Rabiot où il est vraiment extraordinaire, et peut-être, attends, laisse-moi finir.
Mais je te laisse finir.
Le match qu'il fait au Bernabéu, on s'en souvient tous, au Real Madrid et tout, il était vraiment partout et tout. Après, il y a deux choses. La première, c'est qu'il a jamais été constant totalement sur une saison. Donc, on sait pas ce que ça donne. En équipe de France, ça a pas bien marché. Et est-ce qu'il a déserté le foot depuis 6 mois? Je ne sais pas. En plus, un dernier truc, c'est qu'il a joué dans une équipe qui, globalement, on va aller très très vite, le PSG était championne à la trêve. Donc,
c'est un peu comme si à la Juve aussi sur les dernières années, quand même.
Oui, mais tant mieux pour lui, tant mieux pour lui. Non, ce que je veux dire, la vraie épreuve du feu, il ne l'a jamais connu.
Il est champion,
je vais le défendre.
Il a pas participé de façon déterminante à une grande conquête européenne, par exemple, ne serait-ce qu'à les demi-finales.
Mais le PSG non plus en même temps, en général.
Il y était, et le PSG non plus. Donc, le PSG, au niveau national, c'est champion à la trêve. Donc, en plus, il n'y avait pas une énorme concurrence au milieu de terrain au PSG. Donc, tout ça, mis bout à bout, c'est qu'on a l'apparence d'un très grand joueur. Et là, je suis d'accord avec toi. Le meilleur que j'ai vu, je suis d'accord avec toi. Pour le reste, le très haut niveau, un club sérieux qui prétend...
Oui, mais ça, c'est
minimum,
pas
au minimum.
Mais en fait, chérif, tu confonds. Je suis désolé, chérif.
Des champions,
je vais te couper un
peu. On ne sait pas.
Là, je suis désolé. Pour moi, tu mélanges deux choses. Tu mélanges la personnalité du garçon qui peut
pas
être
clivante.
Non, non, si.
Pas
qui peut
tout.
Être clivante. C'est vrai qu'il est peut-être pas toujours régulier.
Est-ce que j'ai parlé de l'extra sport?
Oui, non, mais écoute-moi.
Vous auriez dû.
Non, mais
tu mélanges deux choses. Tu l'as très bien fait.
Tu mélanges deux choses. La personnalité du garçon et l'atmosphère du club. Il a pas participé à ça. Le PSG n'a pas participé à ça. Et l'atmosphère du PSG, elle est détestable. Pas uniquement pour Rabiot, pour les joueurs, pour les entraîneurs, pour les directeurs sportifs. Regarde le nombre de joueurs, d'entraîneurs, de directeurs sportifs qui sont arrivés au PSG dans de bonnes dispositions, qui sont partis comme des daubes. Non mais tu me dis, ouais mais il a pas participé à ça, ouais mais il est pas régulier,
non,
ouais mais
il a joué dans une équipe, il a joué dans une équipe,
il a joué dans un club à l'atmosphère daubée.
Naïm, bien sûr que sportivement de l'épreuve du feu. Quelle épreuve du feu il a traversé?
Mais le PSG a pas traversé d'épreuve du feu. Excuse-moi, il a fait quoi le PSG?
Donc on est d'accord, c'est un bon joueur dans une équipe.
C'est sauf qui va arriver.
Moi ce que j'en comprends, c'est que on a des doutes sur le niveau de Rabiot par rapport au club, voilà, dans lequel il arrive. C'est ce que vous dites.
Après
Gilles, pour terminer sur Rabiot.
De la Juve, c'est de dire qu'ils savent, parce que la Juve, c'est une équipe qui ne fait rien au hasard. Ils savent que c'est un joueur compliqué. Ils savent que c'est un joueur conflictuel. Leur pari à eux, c'est de dire que grâce à la Juve, grâce au maillot, que représente l'institution Juve, parce que du côté de l'Italie, on pense parfois que l'institution PSG, elle est parfois brinque-ballante. Mm-hmm. Ils pensent que ça va, entre guillemets, le remettre dans le droit chemin et qu'il ne bronchera pas, qu'il peut s'intégrer et que le potentiel sera supérieur aux éventuels états d'âme. Moi, j'aurais pas fait ce pari, mais ils s'y connaissent beaucoup mieux que moi. Donc,
eh bien justement, on va évoquer un autre pari. Griezmann est parti, mais son maillot de l'Atlético ne va pas rester longtemps pendu dans le vestiaire tout seul. Un gamin de 19 ans prendra sa place et son numéro dans l'effectif Colchonero, le numéro 7 pour un contrat de 7 ans et 127 millions d'euros a été avez signé avec un joueur qui s'appelle Juan Félix. Ce qui est amusant, c'est que la presse espagnole, aujourd'hui tant Marca que AS, les deux journaux sportifs, parlent d'un artiste qui arrive à tel point qu'ils l'ont pris en photo à côté de l'œuvre fameuse du Prado hein, de Madrid, l'immense tableau Las Meninas du maître Diego Velázquez. Je ne sais pas. En tout cas, oui, vous pouvez le voir si vous nous regardez sur Facebook Live. Effectivement, cette photo du très grand joueur et derrière du tableau encore plus grand. En tout cas, l'Atlético Madrid, alors c'est pareil, un peu la Juve avant n'achetait pas des joueurs aussi chers que Cristiano, s'est mis à le faire. L'Atlético Madrid a-t-il perdu la tête en misant si gros sur un si jeune footballeur?
Alors, le problème global, c'est que si vous ne suivez plus cette inflation qui, du point de vue éthique et moral, et pour tous nos auditeurs, est totalement délirante, mais cette bulle spéculative du foot fait que les clubs qui, entre guillemets, étaient sages ou avaient une politique,
non,
maintenant...
historiquement, non. Rappelle-toi de l'époque Riliri, le président. C'était du n'importe quoi.
Oui, mais là, disons qu'il y avait une certaine norme dans les prix. Ils n'avaient pas atteint les plus gros records, y compris dans les salaires, etc.
Ils sont mis dans le rouge quand même. Ils ont dû vendre les Torres.
C'est vrai. C'est vrai. Mais maintenant, ces clubs-là ne
veulent rester
plus.
Dans le jeu.
Vous ne pouvez plus quoi. Ouais. C'est tellement dingue que vous ne pouvez plus résister. Donc, vous ne pouvez plus acheter les grandes stars parce que elles sont à 200, 300 millions. Et là, il y avait, entre guillemets, un coup à tenter. L'Atlético, fort de recettes, avant même de vendre Griezmann, ils ont de l'argent. Ils se sont dit, on tente ce coup-là pour un jeune. C'est osé, mais franchement, s'il réussit, dans 3 ans, ils le revendront à Barcelone pour 80 millions de plus.
En fait, ce qu'il faut comprendre avec les mercato d'aujourd'hui, c'est qu'on n'achète plus les joueurs, on investit sur des joueurs. Donc quand on investit sur Joao Félix, 127 millions, évidemment, ça paraît fou, parce qu'il vaut peut-être pas 127 millions aujourd'hui.
Vous avez vu comment se fait le montage financier?
Oui, c'est un prêt d'une banque.
Voilà, Nicolas Villas l'écoutait, notre camarade qui intervenait ici de temps à autre, a expliqué, il y a 30 millions versés immédiatement au club de Porto, du Benfica, et ensuite 16 millions qui sont payés par une banque.
Ouais.
Voilà, un escompte bancaire. Donc, alors, à noter quand même que Jorge Mendes, qui est évidemment dans la belle histoire, le fameux agent touchera 12 millions d'euros. Mmh. Et le club formateur qui est le FC Porto touchera 1 million 200 000 euros, ce qui est intéressant quand on a formé un joueur.
Non, mais tout le montage financier que vous venez d'expliquer illustre bien mon propos, c'est que tout ça, c'est du business. On investit sur un joueur en espérant qu'il atteigne la somme qu'on a mise dessus. Gilles a raison, si dans 2-3 ans il flambe, il part pour le triple. Et si jamais ça marche pas, comme il est jeune et que les prix du marché aujourd'hui de façon sont nettement en dessous, vous pourrez le revendre assez cher. Vous perdrez peut-être un petit peu de sous, mais pas tant que ça. Donc c'est comme ça qu'il faut voir aujourd'hui l'achat. On parle de lui, on pourrait dire la même chose pour Mbappé, pour Naby Keita quand Liverpool a mis de l'argent dessus. C'est à peu près la même chose, on investit sur des joueurs. Puis deuxièmement, il y a aussi l'image. Vous venez de perdre Griezmann, un des meilleurs joueurs du monde. Vous faites comment quand vous êtes l'Atlético?
Un champion du monde.
Vous êtes obligé pour les socios, pour le public, pour continuer d'essayer d'être au niveau de la concurrence, de frapper fort. Vous avez plus le choix aujourd'hui.
Que vaut-il ce joueur? Vous le connaissez?
On l'a tous découvert un peu cette saison.
En Ligue des Champions?
En Europa League, après j'en avais entendu parler.
Il a une seule saison comme professionnel, son jeune âge d'ailleurs.
Et je vais même vous dire un peu mieux, il a 6 mois peut-être. Parce qu'en 2018, il a très peu joué, il a été blessé.
Voilà. Et le truc.
Et vous avez tapé dans l'œil, Shérif?
Ouais, tout parce que alors bizarrement on le compare à Kaka, Rui Costa, enfin des trucs comme ça. Alors que moi,
physiquement, il ressemble à Kaka, mais bon.
Ouais, mais moi, il me fait plutôt penser au jeune Pires. Je sais pas si tu te souviens quand il jouait à Metz.
C'est vrai.
Tu vois ce que je veux dire? Comment ça s'appelle? Le volume de jeu, tout ça, un peu derrière les attaquants qui marquent des buts. Tous les deux, ils marquent des buts d'ailleurs. Là, il fait plus penser au jeune Pires, qui était très bon, l'ancien Pires. Attention, hein.
Très bon. Ouais.
Voilà.
Bah oui.
Et il a des qualités. Il les a toutes. La qualité de la passe, tête levée, il marque des buts. Il a vraiment beaucoup de qualités. Maintenant, le coût du transfert, je le trouve absolument délirant.
Oui, c'est un pari.
En plus, il y a un truc qui me gêne. Moi, c'est Simeone qui le fait venir. Bon, déjà, quand on est un jeune attaquant, c'est pas très épanouissant d'arriver à l'Atlético Madrid. Il va falloir qu'il se mette à défendre comme un chien et qu'il bride un peu son plaisir. L'Atlético,
oui,
c'est comme ça.
On disait la même chose de Griezmann. Hein.
Oui, mais voit Griezmann aussi qu'il les bonifie, les joueurs, Diego Simeone, quand même.
Oui, moi, c'est un jeune attaquant. Je veux dire, c'est un jeune attaquant. Quand Griezmann, il arrive, il doit avoir, 23 ans et tout ça. Il a déjà prouvé et il s'est déjà épanoui. Et en plus.
Griezmann avait moins prouvé à la Real Sociedad que Joao à Benfica, quand même, un shérif. Hein.
Non, mais attends. Mais lui, il arrive. Attends, t'as 19 ans, t'es un offensif, c'est pas dans ce club que tu t'épanouis. Et la deuxième chose, je finis. La deuxième chose, il y a un truc qui me dérange, c'est qu'il le fait signer pour 7 ans. Simeone, ça fait depuis au moins 2 saisons qu'il part de son éventuel départ de l'Atlético. Moi, je trouve pas ça très loyal de faire venir un joueur sur un joueur prometteur sur
7 ans.
Sur 7 ans. Alors que Simeone risque de partir, je sais pas, peut-être l'année
Sauf
prochaine.
Sauf que si Simeone se casse et que tu fais venir un entraîneur plus offensif, il sera dans de bonnes dispositions, il sera mieux pour lui.
Si on fait venir un entraîneur.
Je voudrais juste redire et insister par rapport à nos auditeurs. Ces prix-là, quand même, qui sont des prix fous, hallucinants, choquants, heurtants. À mon avis, un jour, quand même, ils vont finir par faire éclater cette bulle spéculative.
Je te coupe, Gilles.
On est encore loin de ça. Mais franchement, un jour, les gens diront, c'est pas possible, quand vous calculerez le nombre de SMIC ou dans chaque pays de salaire médian qu'il faut pour avoir des prix comme ça. Les gens seront déconnectés de ça.
Mais vous ouvrez des portes ouvertes tous les deux quand vous dites des trucs comme ça. Mais bien sûr que si on le sait que c'est dégueulasse de voir des prix pareils, que c'est exorbitant, que si tu vois par rapport à la pauvreté dans le monde, c'est une honte. Mais là, on parle du football.
Oui,
Est-ce qu'on peut juste parler de football 30 secondes. Ce garçon est pétri de talent. Il arrive dans une équipe où il y a Lemar, où il y a Correa, où il y a Coquet, où il y a Niguez, où il y a des vrais joueurs de foot. Et à un moment donné, c'est vrai que Simeone a ce type de jeu de faire travailler les équipes, de les faire courir, gros bloc défensif. Il a quand même de moins en moins de joueurs comme ça et de plus en plus de joueurs de ballon. Gageons que comme c'est un entraîneur intelligent, il arrive aussi à se mettre d'accorder son jeu en fonction du profil de ses joueurs et qu'on voit un Atlético plus offensif, plus sympa.
Ça n'a rien à voir avec le côté choquant de la chose là.
Non, ça n'a rien à voir avec le choquant, mais vous ne parlez que de pognon.
C'était un peu la question aussi. C'était est-ce que c'est un pari ?
C'est un pari, mais il n'y a que des paris aujourd'hui dans le football. Il y a que
c'est
des paris,
que de
mais
plus en plus, il y en a.
À un moment donné, même à petite échelle, quand un club de Ligue 1 va chercher un joueur de national, c'est un pari.
Mais là, c'est un pari qui coûte cher quand même.
Non, surtout 120 millions d'euros. Sur ce que disait Gilles, je suis d'accord. La mentalité des socios à l'Atlético, c'est le club de banlieue. Donc, du 126 millions, va falloir le justifier auprès des socios. Alors, d'accord, il faut faire un coup, faut faire venir des jeunes pépites, pétris de talent, comme tu dis. Mais on n'est pas au Real, on est à l'Atlético. C'est pas la même mentalité au niveau des socios.
On suivra ça dans Radio Foot International, évidemment, tout au long de la saison. Pour l'instant, eh bien, on va faire un petit tour du côté de l'Égypte et du côté de la CAN. Allez, on va se calmer. On termine cette émission en évoquant à la CAN, eh bien, la Guinée. La Guinée qui est qualifiée pour le 8e de finale, qui jouera face à l'Algérie, mais qui jouera sans son joueur star, sans Naby Keïta. Le milieu de terrain des Reds n'aura pas joué finalement un seul match entier dans cette compétition. Il était entré en fin de match quand ça allait pas très bien contre Madagascar dans ce match nul, puis presque toute la rencontre où il était titulaire au départ.
70 minutes,
voilà, parce qu'il revenait de blessure, donc match perdu face au Nigeria. Et puis il a quand même regardé ses copains battre le Burundi, ce qui a permis de passer au tour d'après. Seulement lui, entre-temps, il est parti rejoindre Liverpool. Sa blessure contractée contre le Barça, plus de 3 petits bobos, eh bien, tout ça s'est réveillé. Il ne jouera pas donc le 8e contre l'Algérie et les autres matchs si la Guinée en dispute d'autres. Il reviendra quand même peut-être encourager ses camarades au Caire dans le stade dimanche soir. Est-ce un coup dur pour l'équipe de Guinée ?
Oui et non, parce que on en avait parlé avec Franck Simon le premier match contre Madagascar, le fameux centre où il se déploie pas. Tout simplement parce qu'il n'est pas à 100%. Et quand on n'est pas à 100% dans une compétition,
il vaut mieux pas jouer.
Moi, je pense que, on en parlera après. Bon, les grands joueurs qui ont manqué dans les grandes compétitions, mais quand on n'est pas à 100%, on vient pas. On peut faire éventuellement le calcul de se remettre pour arriver à partir des huitièmes de finale, comme l'a fait Zidane en 2002. Mais bon, tout ça, ça reste très hypothétique. Et ce qu'on voit, c'est que quand ils voient le premier match, ils font 2-2. Qu'une équipe qu'ils ont dominée, qu'ils auraient dû battre, ils n'ont pas gagné. Le deuxième, ils se font trucider par le Nigeria, même s'il n'y a que 1-0. Et le troisième, il y a les copains qui battent le Burundi. Et puis voilà, il y a Mohamed Diatara qui s'y met, ils ont Bangoura, ils vont faire avec eux ce qu'ils ont.
Gilles.
Moi, il y a quelque chose qui me choque sur la méthode. La méthode, c'est qu'un joueur sort de sa sélection, va donc dans son club pour consulter des médecins, avoir des avis éclairés.
Son club qui
déjà avait dramatisé avant la compétition la blessure.
Apparemment, ils n'avaient pas dramatisé, Gilles.
Alors, vous avez raison quand même.
Attendez. La fin de mon propos, c'est que je trouve que Liverpool insiste beaucoup. C'est une vraie blessure. Liverpool insiste beaucoup quand même pour qu'il ne retourne pas, pour qu'il soit à disposition du club à la pré-saison. Et quand vous lisez les termes de ce qui est dit en Angleterre, c'est presque qu'il lui intime l'ordre.
Ils ont entièrement raison.
Ah bah, lui, intime l'ordre, en gros, de prendre du repos. Sous-entendu, effectivement, c'est nous qui payons. Mais moi, je trouve qu'il y a un tout petit peu de ce qu'on avait dénoncé, c'est-à-dire qu'il y a un tout petit peu d'ingérence de la vie du club européen dans la sélection africaine. Pourtant, la CAN a été déplacée. Mais là, j'ai l'impression que Liverpool a recours aux bonnes vieilles méthodes.
Je vais dire, Gilles, pourquoi est-ce que tu dis, il faut d'abord, Annie a raison, c'est le club qui paye. Deuxièmement, Nabi Keita, il s'est blessé en club. Ça veut dire que le protocole de soins de guérison de réathlétisation a été démarré en club. C'est normal qu'ils le suivent. Troisièmement.
Là, vous ne pouvez pas dire ça. C'est contraire au règlement FIFA. Les règlements FIFA disent que c'est le médecin de la sélection, quand le joueur est en sélection, qui prend la décision. C'est pour ça que les joueurs viennent faire contrôler.
À un moment donné, vous savez comment ça marche dans le foot. S'il y a déjà un protocole de soins et de guérison mis en place par le club, les deux staffs médicaux rentrent en contact et on se suit.
Oui, enfin, mais pour Neymar.
Gilles, mais évidemment, mais Gilles, ne soyez
mais
pas
ça
enfantin.
Ça se passe pas toujours très bien. Hein.
Bon, c'est la sélection qui a le dernier mot.
Nabi
quand le club
Keita se blesse le 1er mai. Il avait 2 mois d'arrêt le 1er juillet. Ça voulait dire qu'il ne pouvait pas normalement faire la CAN. Il y a été par amour pour son pays. Liverpool lui avait dit non, ils ont laissé le choix au joueur. Il a voulu y aller, résultat des courses, il s'est reblessé. À un moment donné, si quand il rentre en club, il ne peut pas être utilisé tout de suite. C'est le club qui est pénalisé. Il lui avait interdit d'y aller. Il y va, il se reblesse. C'est le club qui est perdant dans l'affaire.
Est-ce que la sélection est pénalisée?
Oui, elle est pénalisée parce que c'est son meilleur joueur. Mais à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez? Faire jouer un joueur blessé pour le perdre beaucoup plus longtemps ou le laisser se rétablir pour pouvoir l'utiliser
plus vite?
C'est
pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est une sélection qui tourne sans son meilleur joueur et peut-être tout le plan tactique qui est à revoir.
Ils ont gagné
sans
Guinée.
La
Guinée, elle est capable de faire une CAN correcte sans Nabi Keita. Évidemment que la Guinée est moins forte sans qu'avec, mais à un moment donné, t'as des joueurs comme Amadou Diawara, comme Kamano, comme Kaba, qui vont devoir un petit peu se mettre au diapason. Ouais.
Chérif, justement, tout à l'heure, vous parliez de Zinedine Zidane. On s'en souvient, on faisait, en préparant l'émission avec David Finzel, on cherchait un peu le nom des joueurs à citer. On se souvient de Zinedine Zidane en 2002 à la Coupe du Monde. On se souvient de Didier Drogba, 2010, quand il a son bras dans le plâtre. Ouais. On se souvient évidemment de Mohamed Salah en 2018, très récemment. Ouais. Est-ce que finalement,
Beckham en 2002 à la Coupe du Monde 2002.
Il vaudrait pas mieux que le joueur disent clairement je suis blessé, mais surtout n'essaye pas, parce que Zidane, quand il vient en 2002, il résout absolument rien. Didier Drogba contre le Brésil, quand il rentre, il résout rien non plus.
De la même façon qu'il avait l'équipe d'Angleterre avec Beckham en 2002 et ensuite avec Wayne Rooney qui était arrivé blessé, alors je sais plus si c'était le roi de la Coupe du Monde, enfin peu importe, c'est toujours des paris hyper aléatoire.
Mais des paris perdants, finalement.
C'est toujours des paris perdants.
On n'a pas de bon exemple positif.
Non, mais il y a Baresi qui se blesse à la Coupe du Monde, c'est laquelle? 94, c'est ça, il se blesse au premier tour et il revient pour la finale. Bon, c'est exceptionnel, en plus c'est un défenseur.
Ouais, mais ils vont loin.
Voilà, c'est ça. Mais la tendance actuelle, c'est qu'on prend de moins en moins de risques. Et c'est ça qui m'a un peu étonné avec notre sélection du Guinée, c'est que quand on regarde dans les dernières compétitions, j'ai pas d'exemple précis, il y avait peut-être l'équipe d'Allemagne, mais il y a un autre joueur qui me manque. Mais bon, peu importe. Quand on sait qu'il y a un risque, maintenant, on l'évacue.
On change de tactique, c'est ça.
C'est quel joueur qui l'avait pas pris? Je me rappelle plus pour.
Ribéry en 2014, hein.
Voilà.
Et Grenier également.
Voilà. Quand il y a un risque, maintenant c'est trop aléatoire. En plus, supputer que le joueur va se rétablir à partir des huitièmes, c'est pareil, c'est aléatoire.
Sauf que les noms que vous avez prononcés, reprenons par exemple Zidane à la Coupe du Monde. La France entière, le monde était au chevet de Zidane. Moi, je me souviens, j'étais là-bas, en Corée et au Japon. Chaque nouvelle de Zidane, c'était la une des journaux.
Bien sûr.
Pourquoi? Parce que c'était le meilleur joueur du monde. Donc
on avait envie de le voir jouer.
Mais oui.
Pour le plaisir.
Et vous êtes obligé d'aller au bout du processus. Vous ne pouvez pas dire, bon, Zidane est touché, un match amical avant surréaliste, là. Zidane est touché. Il reste à la maison. C'est impossible. Si vous avez l'espoir d'avoir Zidane, Drogba, tous les noms que vous avez cités, au troisième match de poule,
pour faire plaisir aux spectateurs. Plus pour faire plaisir, disons, à ceux qui regardent un match que aux sélectionneurs.
Ça va au-delà. Si vous dites aux Bleus, avant la Coupe du Monde, voilà, Zidane est forfait, il est blessé, les Bleus sont cassés. Vous me direz, là, on a essayé de le rétablir, ça n'a pas marché.
Dans le même état d'esprit pour Keita.
Mais
la Guinée attend Nabi Keita.
Tu te rends pas compte. Mais vous ne pouvez pas ne pas tout tenter pour avoir, même pour le troisième match de poule, votre meilleur joueur.
Et c'est pour ça que Liverpool a été très sympathique de laisser partir Nabi Keita, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui auraient refusé. Beaucoup de clubs qui auraient refusé. Je pense qu'ils lui ont fait une vraie fleur.
Bon, on souhaite.
Falcao n'était pas rétabli, il me semble. Et il n'est pas allé. Ils n'ont pas couru le risque de le prendre en sélection.
C'est vrai.
En 2014. C'est ça. Hein.
On souhaite bonne chance à la Guinée, en tout cas, sans Nabi Keita. En tout cas, il sera peut-être là sur le banc pour les encourager, mais pas sur la pelouse. Merci, messieurs, d'avoir participé. C'est toujours trop court. Tout le monde le dit. À Radio Foot International aujourd'hui. Merci aussi à Cyril Etienne et Laure Tamperville, grâce à qui vous avez pu nous regarder aujourd'hui grâce à Facebook Live aussi. Et puis merci à David Finzel et à Pierre Guérin ainsi que Laurent Salerno. Et on vous dit tout simplement à demain.